Bonsoir, Christophe Boltanski.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes là pour nous présenter Le Guetteur, qui est paru à la rentrée chez Stock. C'est votre deuxième roman, après La Cache, paru en 2015, prix Femina, qui mettait en scène votre famille paternelle. Le Guetteur se place cette fois-ci du côté maternel et évoque la vie d'une femme, mère du narrateur, double de vous-même. La vie d'une femme à travers son parcours, à travers les écrits qu'elle a laissés à sa mort aussi, des notes, des ébauches de romans policiers. Alors, d'emblée, dès la lecture des titres de vos romans, La Cache, Le Guetteur, on est renvoyé au vocabulaire du roman policier et on pressent que vos romans vont s'apparenter à une enquête, à une quête. Nous serons cette fois-ci du point de vue du guetteur, donc de celui qui observe, placé tout à vos côtés, pour interroger le passé d'une femme, mais pour interroger aussi, on le verra, une part de notre histoire à tous. Alors, pour commencer peut-être, est-ce qu'on pourrait faire en quelques mots, difficile, mais le portrait de cette femme, héroïne de ce roman? C'est difficile de présenter quelqu'un comme ça, mais je voudrais partir du texte. Vous dites à un moment, pour parler d'elle, que c'est une enfant de la guerre. Est-ce que ce n'est pas finalement le nœud de ce qui la caractérise, une enfant de la guerre?
Alors, c'est une enfant de la guerre, comme beaucoup de personnes de cette génération. Donc, elle naît juste avant la guerre, elle grandit pendant la guerre, elle vit la guerre, comme beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, parce qu'ils vivent à côté d'une gare de triage, parce qu'il y a des bombardements, parce qu'il y a le rationnement et l'occupation. C'est une enfant de la guerre aussi parce qu'elle va être élevée dans cette France de l'immédiate après-guerre, avec le culte de la résistance, de cette France résistante. On est encore dans cette narration-là de la guerre, qui va évidemment évoluer dans les années 80, mais qui est cette geste un peu gaullienne, d'une France qui a résisté de façon presque unanime. Et donc, elle a cet exemple-là. Et comme beaucoup de jeunes, elle se retrouve étudiante pendant la guerre d'Algérie. Beaucoup de ces jeunes étudiants vont avoir ce modèle en tête, ces grands ancêtres, et cette envie de faire quelque chose, ce sentiment qu'ils seraient nés juste peut-être 10 ans plus tôt, ils auraient été résistants, ils ne l'ont pas été, et ce désir de faire quelque chose de grand. Et donc je pense qu'elle est effectivement, pour toutes ces raisons, une enfant de la guerre.
C'est une... Tout va bien ? Oui ? On continue, pardon. Donc c'est donc, oui, une résistante, vous le dites, une militante même, parce qu'effectivement, elle va s'engager auprès du Front de Libération Nationale au moment de la guerre d'Algérie, mais elle s'engage ensuite dans d'autres combats, après, auprès de Ralph Front, auprès des sans-papiers, auprès du DAL. Et puis après, plus rien. Vous dites, avec beaucoup de pudeur, qu'elle se livrera ensuite, elle se livrera ensuite à des combats plus intérieurs. Donc, quand on résiste comme ça, quand on a une espèce de force contre quelque chose, qui sont ces démons, en fait ?
Mais effectivement, c'est une jeune fille qui ses parents sont des bourgeois, mais des bourgeois de fraîche date, qui ont été boursiers, et son père est devenu médecin, sa mère était institutrice. Ils habitent le 16e arrondissement, qui est un quartier bourgeois de Paris, très tranquille. Et elle est une jeune fille qui va se révolter. Elle va se révolter d'abord contre la figure de sa mère, qui est très autoritaire, qui est une mère qui a été... elle-même, elle a ses démons, et c'est la tuberculose qui a ravagé dans sa jeunesse l'ouest de la France, qui a fait, et dans sa propre famille, elle a perdu une sœur, un frère et sa mère. et qui traque jusqu'à sa mort. Elle va traquer le mal, la maladie, le bacille. Elle surveille tout. Elle surveille ses propres enfants. Et elle les soumet à une surveillance continue. Et donc, elle va essayer de se libérer de cela. Et puis, il y a le hasard, en fait. Hein, elle rencontre une personne, puis une deuxième, et elle va finir par effectivement se retrouver dans un groupe de jeunes étudiants à l'Institut d'anglais à Paris, à la Sorbonne, qui font ce qu'on appelle, d'un mot extrêmement multiforme, font du soutien. Et c'est un mot assez flou et qui correspond bien à la nature de leurs activités, qui est à ce moment-là assez balbutiante. Donc ce sont des jeunes qui appellent à l'insoumission, donc distribuent des tracts, vendent sous le manteau des livres interdits. C'est des livres publiés par les éditions de Minuit, notamment La question d'Henri Alleg étant le plus connu. Et petit à petit, elle va être amenée à faire plus de choses que les autres. C'est un peu l'hypothèse que je fais dans ce livre, parce que je raconte l'histoire de ma mère. Et, en fait, il y a eu, dans sa, à un moment donné, moi, la mère que j'ai connue est une mère qui, elle, n'est plus dans l'action. Elle est c'est une mère qui passe presque l'essentiel de son temps au lit, à bouquiner, à boire des cafés au lait, à fumer. Et puis, vers la fin de sa vie, toujours couchée, toujours alitée, vivant de plus en plus recluse, mais étant elle-même dans sa fiction. Et l'hypothèse que je fais, c'est qu'il y a eu... elle a eu une première partie de sa vie où ça a été vraiment sa vraie vie, et c'est cette jeunesse étudiante et militante. Et ça correspond bien... vous savez, il y a un livre, un des bons livres sur la guerre d'Algérie, c'est le livre de Claire Etcherelli qui s'appelle « Élise ou la vraie vie ». Et pour elle aussi, ça a été, je pense, sa vraie vie. Et après, elle a cessé, à mon avis, de rejouer cette vie, ou d'essayer de retrouver cette vie, ou de la penser, de la rêver. Et elle est restée finalement prisonnière de cette première vie.
Et est-ce que finalement, la question de la solitude, elle n'est pas centrale par rapport à ça ? Je me permets une citation qui n'est pas tirée de ce livre, mais d'un autre. « Nous avions peur de tout, de rien, des autres, de nous-mêmes, de la petite comme de la grande histoire. » Des honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent se muer en criminels, de la réversibilité des hommes et de la vie. Du pire, car il est toujours sûr. C'est tiré de votre premier roman, donc La Cache. Mais je trouve que ça colle très bien avec en tout cas, cette citation, avec l'angoisse de notre héroïne.
Oui, mais c'est même très troublant. Mmh. C'est pour ça aussi que c'était pour moi... presque à la fois nécessaire et logique d'écrire ce deuxième livre, parce que dans le premier livre, je parlais d'une famille également qui vivait enfermée, mais plutôt foutraque et excentrique, vivant également hantée par ses peurs, mais qui, sur fond aussi d'une grande histoire, mais celle, non plus la guerre d'Algérie, mais la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Et qui, donc, c'était des gens qui vivaient constamment ensemble, dormant dans la même pièce, ne sortant que groupés, toujours en voiture, etc. Donc et là, il s'agit d'une toute autre histoire familiale, puisque ma mère, évidemment, avait une toute autre, vient d'un tout autre background, une toute autre origine, et néanmoins, elle a eu ce destin-là, de se replier sur elle-même, de vivre également hantée par ses démons, recluse, et c'est très troublant. C'est très troublant, d'ailleurs, cette gémilité entre ces deux histoires, un peu comme, vous savez, dans les photos, vous avez le négatif et le positif. Ce qui est lumineux devient sombre et réciproquement. Et là, il y a quelque chose de cette nature-là entre ces deux histoires. Donc, même si les deux livres peuvent se lire tout à fait séparément, hein, j'ai voulu d'ailleurs qu'il y ait une vraie étanchéité entre eux, il y a évidemment un jeu de miroir troublant.
Oui. Un jeu face à un nous. Parce que finalement, La Cache, c'est toute une famille. Ici, c'est une... Vous dites ma mère, mais en fait, elle est toujours présentée comme une femme et non pas forcément comme une mère en rapport avec ses enfants, etc. Même le narrateur, dans son rapport avec sa mère, il a un rapport assez...
Forcément... J'ai voulu, et c'est pareil pour le premier, pour le premier et pour celui-là, au début, je ne sais pas trop où je vais aller, mais je sais ce que je ne veux pas faire. Et dans le premier livre, j'avais comme deux idées qui étaient de je ne voulais pas écrire un livre sur une biographie familiale, au sens strict, classique du terme, et je ne voulais pas non plus écrire un livre sur la Shoah, même si la famille était évidemment partout, et que la Shoah était en toile de fond à chaque page. Et là, c'est la même chose, je ne voulais pas écrire un livre sur l'enfance. Il y a eu des très très beaux livres écrits sur l'enfance, Nathalie Sarraute, le livre de ma mère d'Albert Cohen, c'est des livres, des textes absolument magnifiques, ou même le livre de deuil de Roland Barthes, il y a eu une floraison. Et je ne voulais pas écrire ça, parce que je voulais explorer la femme que je ne connais pas, qui pour moi est restée jusqu'à la fin de sa vie, pour moi énigmatique. Il y avait une part d'elle-même qui m'était fermée, quelque chose qui restait mystérieux, et c'est ce mystère-là que j'ai voulu explorer. Donc j'ai délibérément voulu enquêter sur la femme, la mère avant moi, la mère auprès de laquelle je ne suis pas présent, c'est-à-dire... C'est une démarche qui peut paraître bizarre, hein, mais donc à la fois celle qui avant ma naissance, et c'est une façon, c'est une forme de quête de l'origine. C'est une vraie question qu'on se pose tous. À quelle coïncidence, à quel accident, à quel événement de la vie on doit l'existence. Et la femme après moi, c'est-à-dire après mon départ, cette femme seule que je continue à voir, bien sûr, mais qui passe l'essentiel de son temps très jeune, parce qu'elle se retrouve au chômage à 50 ans, chez elle, dans l'inaction, et d'essayer de comprendre ce que c'est que la vie d'une femme, justement, qui ne fait rien, ou qui est censée ne rien faire.
Alors, elle ne fait rien, mais elle écrit. C'est une grande lectrice aussi. Si on voulait la décrire encore, pour que le public puisse la représenter, à quelle héroïne littéraire on pourrait la comparer ? Vous évoquez Sagan jeune au début. Est-ce que ça pourrait être une héroïne de Modiano, une héroïne de Buzzati, une héroïne
de... Oui, je pense que la figure de Sagan doit être évidemment pour toute sa génération est centrale. Il y a une forme de bovarisme aussi chez elle. Hein. Il y a une aspiration à avoir une vie... elle est une femme très romantique, je pense qu'elle est restée jusqu'au bout. C'est aussi une femme qui vit dans ses peurs, dans ses obsessions. Il y a un peu du Patricia Highsmith hein, aussi chez elle. Hein. Donc
Modiano, non ?
Modiano,
le côté secret, le côté Paris.
Modiano, c'est plus, comment dire ? C'est parce que justement, j'essaye de, et c'est pour ça que j'adore toute l'œuvre de Modiano, hein, mais parce qu'il travaille sur cette matière qui s'appelle le souvenir combien ce souvenir est insaisissable et cette lutte constante pour essayer de lutter contre l'oubli. Et de trouver de conserver des matériaux qui sont extrêmement fugaces je ressens cette démarche pour moi est vraiment très 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 fortement dans la mesure où pareil j'essaie de reconstituer la vie de cette femme à partir de pas grand chose, c'est-à-dire que quand vous mourrez, vous laissez tout dans votre appartement et donc c'est le point de départ du livre. Hein. Après sa mort, je me retrouve avec ma sœur à vider son appartement, ce que beaucoup d'enfants font en pareil cas. Et c'est une femme qui accumule énormément de choses, qui ne jette rien. Donc il y a 20 ans de de factures, de tickets de caisse, de talons de carte bleue, il y a des bouteilles vides, elle garde tout. Et donc ces éléments-là sont aussi des éléments qui sur lesquels j'essaye de m'appuyer pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle vivait, comment vivait-elle, qu'est-ce qu'elle mangeait, qui elle voyait. Donc elle laisse aussi des carnets, beaucoup de carnets intimes qu'on va... Parce que c'était quelqu'un de très secret, quelqu'un qui supportait d'ailleurs pas qu'on fouille dans ses affaires. On va même pas oser les conserver. La plupart, on les jette, mais on en garde quand même quelques-uns. Et donc, c'est à partir de tous ces éléments-là que j'essaye de reconstituer la vie de cette femme. En tout cas, c'est d'une inconnue, c'est-à-dire de la femme que je ne connais pas.
Justement, dans tous les éléments que vous retrouvez, il y a une citation du Léviathan qui revient. Léviathan, qui est le roman écrit par Paul Auster, « Du moment qu'on s'en veut à soi-même, il est difficile de ne pas croire que tout le monde vous en veut aussi. » Est-ce qu'il y a une certaine culpabilité chez elle aussi ?
Oui. Alors, c'est en fait, c'est le point de départ du livre. On trouve une... Excusez-moi, je fais un petit détour.
Oui,
on trouve une pochette dans son appartement où il y a des débuts de romans policiers. Et pour moi, c'est une vraie découverte. Je ne savais pas qu'elle voulait écrire. Mais tous ces débuts de texte s'arrêtaient au bout de quelques pages, comme s'il y avait quelque chose qui la bloquait. Et effectivement, c'est une femme qui, la femme que j'ai connue en tout cas, qui n'arrivait pas à agir simplement, qu'il y a quelque chose qui l'arrêtait. Et ce texte, le texte le plus abouti de tous ces débuts de polar, s'appelait justement, on était le seul à avoir un titre, et ça s'appelait « La nuit du guetteur », inspiré d'un poème d'Apollinaire comme un guetteur mélancolique, « J'observe la nuit et la mort ». Et ça raconte, mais encore une fois, très vite ça s'interrompt, l'histoire d'un homme qui épie des femmes. On comprend très vite que les intentions qu'il a sont assez peu sympathiques. Ça fait évidemment écho à sa propre vie, parce que cette femme se sent, pendant les 20 dernières années de sa vie, c'est une femme qui se sent constamment épiée, qui entend des voix, des sifflements, qui est convaincue que ses voisins sont ligués contre elle. Et donc, évidemment, j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre. Pour la première fois, sans doute, parce que de son vivant, c'était quelque chose qui était difficile pour les proches, hein, donc de partager cette logique, de rentrer dans cette logique un peu paranoïaque, comme on dit. Hein. Mais là, ce livre, c'est une, effectivement, comme vous disiez, une quête pour essayer de découvrir qui est ce guetteur. Donc, il y a une recherche et de comprendre un peu quel était l'élément qui l'a fait basculer dans cette vie solitaire et dans ses obsessions.
Justement, guetteur, on a évoqué le fait que voilà, elle a milité pendant la guerre de l'Algérie, où elle a dû être sans doute suivie, donc ça c'est une réalité. Il y a un autre guetteur il y en a plusieurs, mais il y en a un. Est-ce que vous pourriez nous décrire ces guetteurs présumés, en fait, personnages de votre enfance aussi, et puis après de sa vie?
En fait, la figure du guetteur court tout au long du livre, hein, puisque c'est un livre où tout le monde en fait suit tout le monde. Elle-même, donc il y a le fil de la guerre d'Algérie, elle-même a été certainement suivie pendant la guerre d'Algérie, peut-être même qu'elle a été elle-même aussi une éclaireuse, à son tour, et elle a été suivie parce que le groupe dont elle fait partie va être démantelé par la direction de la surveillance du territoire lors d'une grande opération en novembre 61. Elle-même se sent guettée, donc la figure du persécuteur, et ce persécuteur qui va la suivre dans sa... En tout cas, elle en est elle-même convaincue dans tous ces déménagements successifs à Paris, et d'un personnage dont le nom ne vous dira sans doute rien, mais en revanche, vous connaissez sa créature, parce que c'est l'inventeur de Barbapapa, vous savez, ce dessin animé... avec cette grosse boule rose percé de deux petits points et qui peut prendre toutes les formes. Et qui est, d'ailleurs, c'est un dessin animé, c'est vraiment une boule de douceur. C'est vraiment un personnage d'ailleurs assez moderne dans le sens où il est écologiste, avant la lettre, etc. Et pour ma mère, cette figure-là de douceur incarnait le mal absolu. Elle était convaincue que son créateur, qui avait été son voisin, était l'homme qui, finalement, était au cœur de la conspiration ourdie contre elle. Et donc, à un moment donné, elle va requérir les services d'un détective privé. Donc, elle va le faire suivre à son tour. Donc, il y a tous ces jeux de miroirs, de gens qui sont guettés et qui deviennent guetteurs à leur tour. Et évidemment, le guetteur, c'est aussi moi qui essaye de depuis toujours, sans doute, qui guette cette femme pour essayer de percer son mystère.
Oui, il y a un jeu de mise en abîme assez fascinant quand même, parce qu'il y a le guetteur supposé de la mère, le guetteur qui est aussi le personnage principal des ébauches de l'ébauche de roman qu'elle a écrit, le guetteur qui est le narrateur, hein, et puis le guetteur que nous sommes, nous, lecteurs, à essayer d'en savoir un petit peu plus sur... est-ce que la structure, elle est venue d'emblée comme ça, quand c'est une espèce de jeu de poupée gigogne, ou est-ce que vous en êtes rendu compte au moment de l'écriture, de cette espèce de pas de cercle vicieux, mais de mise en abîme comme ça
En fait, la structure, elle vient assez naturellement dans le sens où le point de départ, et je pense que c'est un vrai point de départ pour moi aussi dans l'écriture, c'est la découverte de ces manuscrits inachevés. Donc, une volonté de reprendre finalement son travail d'écriture. Donc, moi je dis toujours que quand les parents meurent, ils lèguent tout. Et ils lèguent à la fois leurs biens, leurs dettes, mais aussi et peut-être plus encore toutes leurs ambitions inabouties, tout ce qu'ils auraient voulu faire, tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils auraient voulu faire. Et cette deuxième partie pèse encore sans doute un point encore plus lourd. Et le point de départ du livre, c'est ça, c'est cette envie d'écrire qui n'a jamais abouti. Et donc je reprends son travail d'écriture. Donc je veux finalement prolonger son polar. C'est un polar. Ce livre est un peu une forme de polar. Et c'est aussi une façon pour moi, c'est une forme de stratagème hein, que je me suis donné. Moi, personnellement, pas comme écrivain, mais parce que c'était la seule façon pour moi de l'aborder, de rentrer dans sa tête, d'essayer de comprendre enfin qu'est-ce qui l'obsédait et pourquoi elle était convaincue d'être ainsi épiée. Et donc voilà, c'est le début de cette quête, ou de cette enquête, qui est une enquête. À la différence d'une enquête policière, l'enquête policière, elle, surtout dans Agatha Christie ou Sherlock Holmes, toutes les questions que vous vous posez tout au long du livre trouvent une réponse à la fin. Là je ne veux pas vous décevoir, mais il y a quand même beaucoup de questions qui restent non résolues. Donc,
vous jouez beaucoup avec les codes du roman policier tout au long du livre, en revanche.
Mais voilà, c'est effectivement le fil qui court tout au long du livre.
Comment s'est bâtie la structure du livre ? C'est pas chronologique, comme dans La Cache d'ailleurs. Vous avez commencé donc d'abord par essayer par ces textes restants, et ensuite vous avez exploré le passé. Comment vous avez travaillé ? Vous avez écrit plusieurs histoires, parce que on lit pas un livre, mais plusieurs. Le roman qui se passe dans les années 60 et qui raconte l'enfance puis le début de l'âge adulte de l'héroïne. Le roman qui est en train d'écrire le narrateur. L'ébauche du roman écrit par la mère. Est-ce que vous avez écrit plusieurs textes épars et que vous avez rassemblés ensuite en faisant des coupures ou...
Alors, d'abord, j'espère que... C'est vrai que ça part... Il y a des éléments différents qui se tissent, hein. mais j'espère en tout cas que quand on lit le livre, on le lit
bien sûr.
Voilà, il y a vraiment une vraie narration. Il y a un déploiement dans le texte. Mais effectivement, avec des fils différents. Et moi, pour plein de raisons, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est ce que j'avais fait également avec la cache. La cache, c'était toute la structure consistait à voyager à travers un appartement. Donc, chaque chapitre était une pièce de la maison. Et là, même chose, il y a deux temporalités différentes. C'est la guerre d'Algérie d'un côté et les 20 dernières années, les dernières années de ma mère de l'autre, qui se tissent, qui se renvoient. Et à un moment donné, ces deux fils se rejoignent, bien sûr. Mais pour plein de raisons, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec des éléments, ces matériaux que je utilise comme des matériaux, qui sont assez multiples. Hein, c'est un mélange de souvenirs, de faire apporter, d'éléments d'archives. C'est très discontinu, hein, c'est très fragmentaire. Et d'essayer de mélanger tout cela pour construire quelque chose. Et c'est vrai que pour moi, l'idée de la construction est importante, en fait. Peut-être parce que je suis resté un grand enfant et que quand j'étais petit, avec mon oncle, qui est Christian, qui est plasticien, qui lui aussi construisait ses propres maquettes, on passait notre temps à construire des maquettes. Donc, et je conçois un peu en tout cas, ces deux romans comme un peu comme des maquettes. Donc, je pars de ces éléments dissemblables pour c'est comme des petits bouts de carton que l'on colle les uns à côté des autres pour essayer de reconstruire une histoire.
Vous dites d'ailleurs à un moment, il me semble, je n'ai pas la citation sous les yeux, mais que vous écrivez comme un architecte. Qui avance pas à pas, qui pose une brique après l'autre.
C'est-à-dire que je trouve qu'il faut respecter parce que je ne travaille pas je travaille des faits vrais quand même, même si tous ces faits vrais, il y a aussi une grande part d'imaginaire. La première part étant la folie de ma mère, elle était dans la fiction. Mais j'utilise tous ces éléments-là. Et je ne veux pas remplir les blancs. Je ne veux pas lisser tout cela dans une sorte de fausse chronologie ou pour en donner un aspect onctueux. Je veux garder les aspérités en fait de tout cela. Et je veux d'une certaine manière que le lecteur aussi sache ce qu'il en est, qu'il sache à quoi il a affaire, à quel type de matériaux. Il est exposé au cours de sa lecture.
Oui, alors je rassure le public, on est quand même dans un formidable roman puzzle et il n'y a pas du tout de discontinuité ou ce genre de choses, mais c'est vrai que c'est une structure assez surprenante et en fait on a l'impression d'accéder au pouvoir formidable de la littérature qui nous permet d'interroger le passé. À un moment, vous dites « Je pousse la porte de mon imaginaire et m'accoude au comptoir ». Et c'est assez vertigineux. Il me semble que pour chacun pour ces deux romans, vous avez mis en place un espèce de mécanisme qui est assez puissant. C'est la littérature qui vous permet d'évoquer l'expérience de vos proches et finalement l'expérience de vos proches qui vous permettent de faire l'expérience de différentes formes littéraires. L'un va avec l'autre. Est-ce que pour vous, l'écriture passe obligatoirement par la mémoire, l'intime, le personnel ?
Je pense, je pense que oui, mais jusqu'au moment où peut-être qu'un jour je me dédierai. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est très important, c'est effectivement de conserver une trace. C'est de toutes ces choses disparaîtraient si elles n'étaient pas couchées par écrit. Avec ce livre qui aura son existence de livre, hein, mais il reste quelque chose. Voilà, il reste quelque chose. Et pour moi, l'écriture est très liée à cette idée de transmettre quelque chose, oui, et sans fixer, c'est-à-dire qu'il faut quand même c'est pour ça que cet aspect un peu rugueux et disparate me paraît important pour quand même qu'il y ait encore une marge d'interprétation, que la chose ne soit pas fixée. Je ne veux pas non plus construire un tombeau. Je veux construire quelque chose qui reste vivant et qui puisse être, si possible, mais soumis à différentes lectures et différentes interprétations.
Alors, ce que vous dites, hein, qui est très beau, me fait penser à des textes, d'un texte qu'a pu écrire Pérec dans Espèce d'espace. J'ai pas, vous citez un moment W de Pérec, donc je me permets cette petite citation parce que je me dis que c'est un auteur qui ne vous est pas inconnu. Il dit dans Espèce d'espace, écrire, essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part un sillon, une trame, une marque ou quelques signes.
Oui. Mais oui, tout à fait. Mais je pense que c'est lié beaucoup à nos histoires familiales et il y a ce sentiment d'une nécessité de garder quelque chose qui aurait pu totalement disparaître. Voilà. Cette hantise de la disparition pure et simple. Oui, je pense traverse évidemment l'œuvre de Pérec.
Et la vôtre. Alors, je faisais des parallèles avec des auteurs. J'avais une question à vous poser. Vous évoquez, pour parler aussi d'inspiration littéraire, moi, j'ai pensé aussi à Emmanuel Carrère. Vous faites une référence justement à l'affaire Roman au début. Donc, Carrère avait fait un texte qui s'appelait L'adversaire. Carrère qui s'est fait aussi scribe dans d'autres vies que la mienne. Est-ce que vous sentez proche de lui d'un point de vue littéraire ?
Moi j'adore tout le travail de Carrère, mais d'abord je trouve qu'il dit quelque chose de très juste. Il dit qu'il faut écrire les livres qu'on est les seuls à pouvoir écrire, et ça je trouve que il y a quelque chose de très vrai, et il dit aussi quelque chose que je trouve très vrai, c'est que quand vous travaillez le réel, vous avez vis-à-vis des vies que vous racontez et des existences que vous décrivez, vous avez un devoir, et que ces vies et ces existences ont des droits sur votre texte d'une certaine manière. Il y a un droit de je ne sais plus quelle est l'expression précise qu'il utilise. Je crois que c'est pas un droit de visite, mais un droit de comment dire, de ça me reviendra, mais de ils ont un droit de relecture d'une certaine manière, et donc voilà, c'est vrai que ça oblige, c'est une littérature qui ne vous autorise pas à tout faire.
Tout à fait. Pour planter un petit peu le décor de ce roman, on s'aperçoit qu'il est encore une fois écrit autour de Paris. Paris, c'est le terreau de vos deux romans. C'est un livre qu'on lit presque comme une cartographie aussi de Paris, parce que cette femme se déplace d'arrondissement en arrondissement. Pourquoi Paris vous inspire autant ? Alors évidemment, fatalement, c'est le lieu, mais en quoi Paris peut-il être inspirant ?
En fait, je ne sais pas si c'est Paris ou les lieux. L'espace m'inspire. Enfin, je trouve que comment les gens se constituent finalement une cartographie à eux. Chacun a sa propre carte mentale. Et pour moi, une histoire, elle s'inscrit toujours dans un lieu, en fait. C'est inséparable d'un lieu. C'est assez classique, enfin, c'est plus vieux comme le roman. Hein. C'est Balzac, vous écrivez 90 pages sur Angoulême avant de commencer à parler des illusions perdues. Mais pour moi, parce que, encore une fois, pour des raisons personnelles, hein, je trouve fascinant comment on peut se reconstituer, même dans un lieu assez petit, tout un univers. comment une chambre peut devenir un monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Oui, une chambre, un appartement. Encore une fois, l'appartement est beaucoup décrit dans ce roman-là. Il y a un moment, vous dites, un lieu, un espace peut-il être coupable de ses occupants ?
Oui, mais c'est vrai que je me pose cette question parce que à propos de ma mère qui à la fin de sa vie vit dans le 15e arrondissement de Paris, elle n'a pas cessé de déménager en fait. Parce qu'elle pense pouvoir ainsi échapper à ses persécuteurs. Et donc, elle change d'appartement et pendant quelques semaines, quelques mois, elle revit, elle redevient une autre femme. Et très vite, elle est rattrapée par ses démons. Donc, et elle repart, et ainsi de suite. Et donc, à la fin de sa vie, elle vit dans le 13e arrondissement, dans ce qu'on appelle le quartier chinois, près des Olympiades. Et un lieu est associé à des moments de notre vie. Alors ça, c'est très modianesque, hein, c'est évidemment, mais je crois que c'est très vrai pour tout le monde. Hein, donc quand vous voyez un lieu, vous pensez tout de suite à un moment très précis de votre existence. Et ce lieu-là porte effectivement une forme de une responsabilité, une co-responsabilité dans ce qui a pu vous arriver à ce moment-là. Donc c'est très injuste, mais c'est comme ça. Et ce lieu-là du 13e est étroitement associé effectivement à sa maladie. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise cette expression.
Il y a encore cette idée de culpabilité qui revient. Vous dites quelque chose de très 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 dur, enfin de très bouleversant plutôt, concernant les personnes qui ont milité auprès du FLN pendant la guerre d'Algérie. Vous dites que les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, les personnes qui ont participé à mai 68 en suivant, ont trouvé complètement une place après dans la société et ont eu tous les honneurs. Ceux qui ont milité auprès du FLN, pas du tout. C'est terrible.
Alors, ça va même plus loin. Je pense même les gens qui étaient à l'OS ont finalement beaucoup plus fait parler d'eux après que les gens qui étaient porteurs de valises. Il y a eu plus de livres et ils ont plus assumé ce qu'ils avaient fait. Non, c'est des gens et j'en ai rencontré beaucoup pour faire ce livre, qui avaient tous en commun, et c'est ma mère la première, hein, de ne pas parler de ça, ou de très peu, et d'avoir toujours peur d'en parler. L'un d'eux me dit, qui est un géopoliticien très connu, dont vous avez des bouquins chez Mola, m'a dit, vous savez, pour moi, la guerre d'Algérie n'est pas finie. Et beaucoup de gens m'ont dit ça. Et parce que ils sont toujours considérés comme des traîtres. Ils ont apporté leur soutien à l'ennemi en temps de guerre. La décision d'Emmanuel Macron de reconnaître la responsabilité de l'État français dans la mort de Maurice Audin et les réactions que ça a pu susciter le montrent. Des polémistes ont pu dire voilà, que Audin méritait ce qui lui était arrivé. Donc voilà, c'est des gens qui effectivement étaient dans l'ombre et vont le rester. Ils ne vont pas faire parler d'eux, à part les têtes d'épingle. Hein, Janson étant le plus connu, mais aussi Henri Curiel, qui lui-même sera assassiné 10 ans après. On parle de quelques milliers de personnes. Ils sont assez peu nombreux, hein, mais c'est des gens qui vont rester et qui sont en plus d'une très grande humilité, parce que il y a cette aura de la résistance. Ils disent, voilà, nous, on n'a rien fait, ou pas grand-chose. Et en plus, ils ne savent pas trop exactement ce qu'ils ont fait, parce que c'est la vie clandestine. Et quand la vie clandestine reste clandestine, c'est-à-dire quand ceux qui en ont été les acteurs ne sortent pas au grand jour et ne confrontent pas leurs propres expériences, personne ne sait précisément qui a fait quoi. En plus, ils portent des pseudos, souvent, donc ils ne connaissent pas leur vraie identité. Et donc c'est quelque chose aussi de très insaisissable, et je voulais garder aussi ce côté-là même les acteurs eux-mêmes ne savent pas trop ce qu'ils ont fait, et je trouve ça très très émouvant. Et Et 10 ans après, vous avez effectivement une autre génération qui va être celle de 68 et qui va connaître en revanche une postérité beaucoup plus grande. Donc c'est cette génération-là qui est une, on ne parle pas de beaucoup de gens, hein, mais qui va être une génération sacrifiée, effectivement. Écrasée entre d'un côté la génération de la résistance, l'aura de la résistance, et la génération 68arde.
Oui, on en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de romans qui sont sortis autour de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, l'année dernière notamment. Est-ce que la littérature peut permettre de modifier un petit peu la perception, les mentalités, faire avancer les choses, en tout cas garder une trace, certes, mais...
Je pense, oui, je pense surtout enfin, la littérature, mais aussi le cinéma. Ou...
Bien sûr.
Mais oui, bien sûr, oui.
Mais votre démarche littéraire...
C'est vrai que depuis quelques années, la guerre d'Algérie est devenue un objet littéraire. Hein. Il y a un très beau livre de Laurent Mauvignier, Les Hommes. Mais il y a eu l'an dernier le livre d'Alice Zénitaire sur les harkis. Il y a eu, mais en revanche, bizarrement, ce qu'on appelle les porteurs de valises, on a peu raconté cette histoire-là. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs, mais j'ai lu évidemment tous les... Enfin, j'ai essayé de lire tout ce qui avait été écrit pendant cette période. Il y a un livre très beau de Maurice Pons, qui est un grand romancier, mais quand même assez oublié aujourd'hui, malheureusement, et qui a écrit un livre sur le passager de nuit, je crois. Le passager de la nuit, qui est un très beau livre, qui est une sorte de road movie, comme ça. Mais non, il y a eu très peu de bouquins sur ça.
Donc l'écriture de ce livre, c'était aussi, il y avait une dimension aussi... politique de...
Oui, je trouve que c'est intéressant en tout cas de ce que je trouve encore une fois et dans le peut-être c'est aussi encore une de mes obsessions, mais je trouve fascinant ou terrifiant plutôt de se rendre compte que 50 ans plus tôt, 60 ans plus tôt, des choses ont pu très très violentes, très dures, parce qu'on parle du 17 octobre 61, mais en fait, pendant toute l'année de 61, il y a des violences à Paris, ont pu se dérouler près de chez vous, dans le métro, place de l'Opéra.
En plein Paris.
En plein Paris, au vu et au su de tous,
voilà.
Et sans qu'il ne reste rien. Finalement, sans qu'il n'en reste... sans que ça n'ait laissé finalement aucune trace. Pendant la nuit du 17 octobre 61, donc des arrestations massives, les gens sont parqués au parc des expositions à Versailles. Au même moment, il y a un concert de Ray Charles qui a lieu juste au parc des expositions. Et donc, d'un côté, les gens chantent et dansent, et de l'autre, des gens meurent. Et ça se passe à quelques mètres. Et c'est pas du tout pour culpabiliser qui que ce soit. J'aurais peut-être pu, moi, si j'avais eu 19 ans à l'époque, être dans cette salle. Mais je trouve ça fascinant. C'est que des choses puissent se dérouler finalement dans une sorte de cécité générale. Et donc je trouve que ça mérite en tout cas d'être interrogé.
Oui, bien sûr. Justement, est-ce que vous parlez un moment du livre, hein, et vous dites tout projet d'écriture part d'une obsession. Et moi, je me demandais, est-ce que l'écriture de ce livre a été libératrice pour vous ?
Oui, tout à fait. Enfin, c'est Philippe Forest qui en parle le mieux, qui a beaucoup écrit sur le deuil, pour des raisons personnelles qu'on connaît, et qui compare ça au théâtre japonais, le théâtre no, en disant que la littérature, il y a quelque chose dans la littérature qui est de l'ordre de la dramaturgie ce qu'il appelle la dramaturgie du revenir. Donc, dans le théâtre japonais, le dispositif est toujours un peu le même. Il y a un spectre qui donc ne connaît pas le repos éternel parce qu'il a fait des choses qui l'empêchent de reposer en paix. Et donc, pour qu'il puisse enfin retrouver cette paix, il faut que quelqu'un rejoue ce qu'il a fait face à un témoin. Et pour lui, l'écriture a cette vertu-là, c'est de rejouer une existence, une vie, pour que le, peut-être pas le spectre, mais que le, en tout cas, que le, en tout cas celui qui joue, rejoue cette vie puisse connaître une forme de paix.
Donc pour vous, ça a été le cas?
Oui, je pense. Oui, tout à fait.
Pouvoir de l'écriture, pouvoir de la littérature, des livres. Les libraires, les librairies sont très présentes dans ce livre. Vous en êtes conscient?
Oui, c'est vrai. Oui, alors il y a la fameuse librairie de Maspero.
Oui.
Qui a disparu, oui, la joie de lire, mais qui a fait faillite à cause de tous ces jeunes qui y vont pour piquer des livres. Parce que quand même, tout le monde a piqué des livres apparemment à la joie de lire. Ma mère, la première. Et oui, il y a tout à fait. Il y a aussi une librairie qui n'existe plus, mais qui se trouve, elle, rue Gay-Lussac, mais dont j'ai retrouvé la trace, qui était en fait une sorte de couverture pour le FLN, où se tenaient des réunions et où se organisait aussi la collecte de cet impôt révolutionnaire qui était levé de façon forcée auprès de la population algérienne de la métropole. Oui, parce que j'ai retrouvé quelqu'un qui avait travaillé dans cette librairie, d'ailleurs. Oui, il y a plusieurs librairies. Ouais.
Mais écoutez, c'est un livre qui est voilà, c'est plein de livres qui se répondent et c'est une image voilà de la puissance de la littérature, la force de la littérature. Est-ce que vous aussi vous avez des cahiers, des chemises, des projets de livres chez vous comme votre mère?
Enfin, des cahiers, j'ai plein de cahiers. J'aime plein de petits carnets, oui, j'aime bien les petits carnets. Parce que j'ai en plus été reporter pendant très longtemps, donc j'avais toujours un petit carnet avec moi. J'accordais à ce carnet d'ailleurs des vertus presque lors du fétiche. Je pensais que ce carnet me protégeait, ce qui était tout à fait illusoire. Hein. Le carnet ne nous a jamais protégés contre les balles, mais j'étais convaincu qu'avec un carnet à la main et un stylo, j'étais finalement presque invisible ou ailleurs. Donc, je dois le penser encore, je pense. Donc, oui.
Écoutez, en tout cas, nous serons ravis d'avoir encore une fois d'autres choses à découvrir à l'occasion d'un troisième roman, récit, essai, qu'importe. Mais je vous remercie en tout cas beaucoup pour...
C'est moi qui vous remercie.
Pour tous ces éclairages sur ce magnifique roman. Portrait très, très émouvant de cette mère, femme, militante. Merci beaucoup.
Merci à vous et merci infiniment d'être venu.